Ce soir, pour la deuxième séance du cycle La part sonore du cinéma, qui est donc assurée par Daniel Dehay. Donc après Jacques Tati, aujourd'hui, c'est Johan van der Keuken. Et voilà, bah juste, je sais prendre la parole, j'ai pas grand-chose à dire comme présentation. Et notez bien que la prochaine séance est le 27 avril, autour du travail de Tarkovski. Mais ce soir, place au documentaire. Voilà.
Merci Catherine. Oui, documentaire, fiction. Pour le sonore, c'est un peu une question qui ne se pose pas tant que ça finalement. On va voir, c'est pour ça que j'ai choisi de diversifier les provenances des films. Parce que la question des écritures du son finalement se pose pas, avec bien sûr les formes, mais par-delà les catégories. Je pense que ça se situe à un autre endroit, dans une autre nécessité. Je crois qu'il n'y a pas... on peut poser toujours la question de la voix off pour le doc, etc. Mais ça pose la question de la voix d'une façon générale et cette question est une question envisagée d'une manière générale pour le cinéma. Alors là, ce soir, Luzber, c'est un film qui, quand je cherchais des films à présenter, m'est apparu comme un espèce d'objet extrêmement différent, différent de la production de Keuken. En même temps révélateur de sa démarche. C'est un film qui est constitué, qui a été reconstitué puisqu'il assemble trois formes courtes de trois périodes. Et le premier, qui date de 62, a été pour lui une sorte de, ça a été un moment très important parce qu'il, sa rencontre avec Luzber a été extrêmement décisif dans tout son travail. Il dit par exemple, mes premières années en tant que cinéaste ont été fortement influencées par Luzber. Sa perception visionnaire me montra le chemin. J'ai réalisé un film pour Luzber en 66, sorti en 67. Donc ça, c'est le deuxième film. La couleur en est le fil conducteur. Et ensuite, le troisième film, Si tu sais où je suis, cherche-moi. Il s'appelle comme ça. Ce film, dont le titre est tiré d'un poème qu'il nous a laissé, a été entièrement tourné dans l'atelier de Luzber, qui est plein à craquer des œuvres qu'il a exécutées ces dernières années, un espace figé en pleine action, pétrifié, en état d'arrêt, mais également un espace où l'esprit souffle encore. Le film parle d'absence, mais c'est justement le manque qui éveille la présence d'un être. Alors les deux premiers films ont été faits avec Luzber. Luzber est un poète avant tout, un poète assez important, influent aux Pays-Bas dans les années 50, qui a rejoint le mouvement Cobra et qui a une démarche, alors qui s'est mis ensuite à la peinture, hein, après la poésie, et qui a une démarche en fait qui va évidemment dans tout ce que Cobra a amené, c'est-à-dire l'internationalité, une approche, un regard sur l'art brut, un regard sur le travail des enfants et les dessins d'enfants. On verra ça dans ce film. Un travail sur les ruptures des formes, un travail entre l'abstrait et le figuratif, etc. On reviendra là-dessus un peu tout à l'heure. Et Keuken, finalement, fabrique un film qui répond à cela, qui s'intègre totalement dans cette démarche, sous ce, sous cette approche. Que Ken a une construction assez métissée et sur lequel il garde la main. Il a une façon de tenir le son, et c'est pour ça en fait que je vous ai aussi apporté ce document, pour vous montrer que finalement construire le son au cinéma, c'est aller au-delà des formes préconstruites ou des conventions de la construction. Ce qui est extrêmement puissant dans ce film, c'est le fait qu'il prend la main, que Ken prend la main sur le sonore de son film, comme il le fait avec l'image. Il balaye les tableaux, c'est en fait une succession de trois portraits, mais ces trois portraits où finalement il se moque assez de donner la parole à Lusbert ou à faire un portrait classique du cinéaste en racontant sa vie. Il rentre directement dans l'œuvre, mais dans la toile, dans la peinture. Dès le début, il entre dans la peinture. Et au son, il nous amène une matérialité, il nous amène une façon d'entrer dans la plastique sonore qui nous approche de la démarche du peintre. Finalement, sa liberté d'écriture est l'équivalent, enfin le parallèle de la liberté du peintre. C'est une forme forte, c'est une forme même exceptionnelle. Alors, Van der Keuken, on sait, a passé sa vie autour du jazz. Il était un amateur éclairé de cette musique, et il a travaillé surtout avec la free musique, la musique de son temps en fait. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à chaque film, finalement, les musiques qu'il place sur ses images sont des musiques contemporaines à l'époque de ses tournages. C'est des musiques dans une contemporanéité extrêmement engagée, c'est-à-dire violente, c'est-à-dire que lorsque la free music arrive, c'est le moment de l'improvisation totale, c'est le moment d'une rupture dans les formes du jazz, que Ken emboîte le pas tout de suite et adopte cette musique pour en nourrir ses images. Et plus qu'en nourrir, pour activer ses images. Il y a là quelque chose qui se constitue dans la matière sonore même, c'est-à-dire qu'il va prendre même la démarche des musiciens de jazz pour trouver sa forme sonore. Il se met à improviser son cinéma. Et vraiment, la démarche de cette époque, enfin du début des années 60, hein, on sait que c'est le moment le plus fort. Je vous rappelle que 58, c'est l'arrivée du disque free jazz, hein, d'Ornette Coleman. Donc c'est là où naît le terme de free jazz et le courant. Et au début des années 60, on est dans une musique déjà très engagée et très novatrice, très en rupture. Alors dans le premier film, il va employer une musique de John Coltrane, et très vite, au lieu de mettre la musique comme les cinéastes mettent de la musique sur leurs films, il se permet d'avoir la main sur la musique et de ralentir la musique. On démarre avec un thème qu'il ralentit, qu'il donne pas à la bonne vitesse. C'est dire à quel point d'emblée il tient même cet objet qui est d'habitude une sorte de lien, enfin qui accompagne une voix off ou un discours. La parole, finalement, dans ce premier film, ça sera la parole de la poésie, ça sera la poésie de Lusbert, et ça sera une parole en poésie immédiate, c'est-à-dire une parole qui, là encore, est dans une forme improvisée, qui a été écrite en partie, qui a été déposée, mais qui est vivante. C'est de la parole sonore. C'est pas simplement de l'écriture poétique, c'est son existence sonore, dans sa vélocité, etc. On va voir que le premier film, finalement, est construit sur des régimes d'énergie. Et Van der Kuiken travaille beaucoup avec ça, avec la question des niveaux d'énergie. On voit dans l'ouvrage qui a été qui a été publié par les Cahiers du cinéma sur ses écrits des partitions de des régimes énergétiques de ses films. Il y a là dans la construction sonore de ses films une volonté d'en articuler les niveaux d'énergie. Donc on va voir ce premier film qui paraît finalement assez, on pourrait dire classique, puisqu'il y a une voix, une musique, et puis des images fixes, des photos, des images mouvantes. Mais bon, c'est une forme assez classique. Finalement, pas si classique que ça. Et il a tout de suite... des façons de, alors très vite, de ramener des matérialités qu'on pourrait définir comme chaotiques. Alors c'est quoi ces matérialités chaotiques? C'est les bruits de fond. Les bruits de fond des cours où les enfants jouent. Et là, c'est là où on retrouve son lien effectivement aussi à Cobra, quoi, cette volonté de ramener les voix enfantines, le jeu, la ludicité des enfants, cette chose qui est insaisissable, comme ça, circulante, et qui révèle des espaces très réverbérés. Et on reviendra là-dessus parce que le dernier film est un film totalement sur le chaos. C'est la bande-son de la troisième partie est essentiellement construite avec du bruit de fond. Et on verra quel bruit de fond et pourquoi, et de quelle manière et de quelle matière il s'agit. Mais dès le premier, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une croissance, une chronologie dans la construction sonore de ce film. On a, dès le premier film, cela, déjà. Et cela face, finalement, à une musique qui est, elle aussi, une musique de la liberté, mais aussi une musique des régimes d'énergie. On va passer de cette première musique qui est assez lente et assez, comme ça, qui expose assez gravement, et qui est une musique qui s'appelle Spiritual, qui est une musique qui renvoie à la question noire, et chez Kuiken, on retrouvera toujours la question noire dans beaucoup de ses films, d'ailleurs. Là, évidemment, surtout dans le deuxième film, il y a comme ça une mise en parallèle de la question noire. Elle se place aussi avec la musique. Si le jazz est là, c'est pour nous rappeler cela aussi. On l'avait dans un film qui est de la même époque que le premier Lustberg, qui est L'enfant aveugle 2. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film qui s'appelle Hermann Slob et qui est un film absolument exceptionnel où il fait un portrait, là encore, d'un enfant aveugle et où il emploie le jazz et particulièrement la musique d'Archie Shepp sur un thème qui s'appelle Le Matin des Noirs et qu'il active, dont il se sert pour construire parallèlement un renvoi à la question noire face à la question de l'exclusion des aveugles. Là, on va retrouver cette question qui est amenée à cet endroit alors d'une autre façon. On verra ça pour le deuxième film. La matière du premier film, sonorement parlant, c'est surtout ça. Il s'en tient finalement à des formes simples, mais qui glissent les unes sur les autres et qui parfois se chevauchent. Et Elles peuvent même chevaucher, se tenir ténues derrière et continuer. C'est-à-dire, on aura, par exemple, la musique qui continuera avec les voix des enfants et puis du texte par-dessus. On va avoir comme ça une épaisseur à trois voix qui va se jouer derrière les images. On va regarder tout de suite ce premier extrait qui est assez court pour voir un peu, pour commencer à rentrer dans l'espace sensible de Keuken. Un film qui s'appelle Temps Travail, qu'il avait construit spécialement pour l'exposition à Beaubourg, ici au Centre Pompidou, sur le temps, et qui est construit à partir d'éléments tirés de bon nombre de ses films, et qui renvoie justement à la question des rythmes du travail, du tempo, de la vitesse. Voilà. Ah, ça y est, on l'a. On sait qu'avec cette matière-là, il nous... D'abord, il travaille hors synchronisme. Le seul moment synchrone, c'est le moment de l'eau forte, le moment où l'acide arrive sur la plaque et bouillonne. Là, c'est du son direct. Mais autrement, les matières sonores sont en production, surtout sur les images du dessin, d'intériorité. On est dans quelque chose qui nous emmène dans le tracé, dans le trait, sans le son synchronique de la trace de la plume. Donc voilà, déjà les régimes d'énergie, différents niveaux d'énergie. Dans le film suivant, on gravit un échelon et ça devient beaucoup plus sévère. D'abord, la musique n'est plus la musique de Coltrane, mais une musique que Willem Bruker est le saxophoniste qui a travaillé toute sa vie avec lui, que Willem Bruker joue, et cette musique est inspirée de la musique d'Albert Heller. C'est un groupe avec Anne Benning à la batterie. Alors, en fait, Lusber a fait un disque avec Anne Benning en duo dans ces mêmes époques-là, voix et percussion, batterie, improvisée. Et on a là une musique qui va prendre différentes matérialités pour bruiter finalement le film, et on va être, et ça c'est très intéressant, dans quelque chose qui se situe tantôt dans ce qu'on pourrait appeler du musical, et tantôt dans du bruitage, mais un bruitage assez abstrait, un bruitage dans une épaisseur poétique qui n'est pas de l'anecdote ou de l'activation d'un mouvement particulier, mais plutôt quelque chose qui a à voir avec la sensation. On est dans ce deuxième film aussi dans des formes qui ne sont plus celles-là, c'est-à-dire où là on a finalement une matière qui se succède à une autre par des glissements, des fondus, etc. Mais on est dans la coupure, et dans une coupure assez forte et assez violente, et même ce qu'on appelle le Mickey Mousing, c'est-à-dire on va avoir des inserts d'extraits d'images de peinture prise dans la matière de la peinture et sur lequel des sons assez abstraits sont ancrés et coupés cut à la serpe. Ça rentre et ça instaure un régime de rupture qui va peu à peu nous amener à l'existence d'un monstre. Un monstre dans la peinture qui est là et qui est une espèce de regard sur la monstruosité du monde. C'est la monstruosité du monde personnifiée avec une espèce de râle, de respiration qui va tenir sur les images tout le temps. Et c'est à travers ce monstre finalement que tout le deuxième film va être construit. Et ce monstre est une existence autant visuel, mais d'une peinture finalement à l'arrêt, que sonore, et là activée, hein, activé par les râles. Et là, on est dans quelque chose qui se construit entre Kuken, qui met la main à la pâte. Le premier, tout ce premier film était fait au son par Kuken lui-même. Le deuxième, c'est un échange avec Willem Bruecker. Et le produit de cet échange est assez surprenant. On a aussi une construction de l'image auquel Kuken nous fait participer. C'est-à-dire que la toile s'élabore devant nous. Alors, ça renvoie au film de Clouzot sur Picasso, le mystère Picasso. On a là quelque chose qui est construit un peu sous le même regard. Et ce montage et ce démontage de l'image, là aussi, est travaillé par le son. Et puis, on a une construction qui se fait avec des images du réel, des images de la Hollande et évidemment du peuple noir et des personnes handicapées et des matières, disons de la chair écorchée, de la chair des têtes de porc, d'un animal égorgé, etc. On a là une espèce de présence de la violence, de la cruauté du monde. Et tout ça à travers la puissance de la couleur. Kuken dit ce film est construit sur la couleur. C'est un film bâti avec la couleur. Donc on va voir comment tout ça s'agence et vous allez voir que là il y a une très grande liberté. Kuken n'hésite pas à ouvrir les potentiomètres et on entend le geste. Hein, chose qu'on cache toujours en mixage, on essaye au maximum de ne pas faire entendre qu'on fait rentrer les sons, quoi. On est toujours extrêmement discret, on y va en douce. Lui, au contraire, il ouvre, il ferme, quoi. C'est, le geste est là. Et le geste est là comme celui qui marque la toile, quoi. On a une prise en main du sonore du film par le corps. Les corps sont présents et le corps de Kuken lui-même est présent. Dans une façon de prendre de la liberté, de jouer, de se jouer finalement de cette matière. Il met tout ça en jeu, on a du sonore en jeu. Et c'est là où la dimension de l'improvisation arrive. On va regarder tout de suite le deuxième extrait, donc la suite de ce film, qui est lui fait en 66, qui est en couleur. On est un peu déconcentré dans la progression. On voit déjà à quel niveau travaille le deuxième. On a changé de vitesse. Là, il y a un objet curieux qui est devant nous. Ça joue de la même façon avec la peinture, avec les images et avec le son. Et cette liberté, finalement, est assez exceptionnelle. On la retrouvera peu, même dans l'œuvre de Kuken, rarement il reprendra une telle liberté. Pourtant, on a là quelque chose qui travaille l'image. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a finalement une mise en parallèle de deux travaux, quoi. Qui se renvoient l'un à l'autre, qui se construisent l'un avec l'autre, qui s'élaborent, ça joue, quoi. Et là, le sonore arrive au même niveau que le visuel, même s'il est tout le temps derrière, puisqu'il est toujours, le sonore est toujours le sonore d'une image, quoi qu'on fasse, sauf si on met tout au noir et encore. Mais là, on atteint quelque chose qui engage des formes nouvelles. Il n'y a plus un élément qui dominerait sur l'autre. Les choses se construisent ensemble, se renvoient, se rappellent. Il y a alors avec la musique en plus des sortes, et avec ces sons, des sortes de petites formes, enfin le chien, les grognements, etc., qui sont un élément circulant, un élément actif, qui n'est pas narratif, mais qui active quand même des niveaux d'énergie. Donc voilà, là on est dans le sensible, dans la surface sensible, comme celle de la peinture. Alors on va trouver dans le troisième quelque chose encore plus étonnant, c'est que le troisième film devait être fait d'un commun accord avec Lusbert ensemble, et Lusbert est mort très rapidement. Et donc Ken a décidé de tourner quand même. Et c'est face à un atelier vide que le film va être fabriqué. Donc il s'agit de remettre en charge cet espace de l'atelier, cet espace inhabité, cet espace évacué. Et Kuken va pour ça travailler avec un sonore qui est, qu'on pourrait croire comme ça, un sonore des grands espaces, comme on a eu avec les enfants qui jouent dans des espaces réverbérants. C'est un sonore chaotique, un peu non précisé. On comprend que c'est des grands lieux, on comprend que c'est des volumes qui sont mis en jeu. Et peu à peu, finalement, on voit que ça n'est pas tant une gare que un musée. Et c'est le sonore du musée qui est là. C'est le lieu de l'avenir de toute cette peinture de l'atelier qui va partir dans ces espaces habités de circulation. Et donc c'est tout le chaos de l'espace muséal qui va nourrir les images. Alors on a un retour aussi, comme dans celui-là, à l'ambiance de l'atelier, avec cette musique de Billie Holiday, comme ça, cette espèce d'ambiance. Là, on avait les petits oiseaux. Toute cette partie était tournée en Espagne, la fin avec les Noirs est tournée en Angleterre. Il circule comme ça partout. Hein. Chez Kuken, on a une façon d'être partout dans le sujet, quoi. Partout, ça circule n'importe où. Et Cobra avait cette idée-là, hein. C'est dans l'idée même de Cobra, d'être dans l'internationalisme. Là, on est, avec le troisième film, dans quelque chose qui est par-delà les lieux, qui est par-delà les pays, qui est par-delà l'espace, qui est dans une espèce de remontée de vase, une espèce de remontée de vase, le lieu de la mort finalement, c'est le chaos, c'est ça, c'est le lieu où tous les sons vont s'éteindre, c'est le bruit de fond, le lointain. Et finalement le lointain, c'est ce qui est le principe d'entropie, hein. Le lieu où les choses disparaissent, mais ne cessent de disparaître. C'est-à-dire, c'est un régime, c'est pas un lieu de disparition stationnaire, c'est pas un lieu qui serait... Non, c'est un lieu qui comprend des éléments distincts. Simplement, on se tient à distance et les éléments ne sont plus lisibles. Le bruit de fond, ce qui nourrit les réverbérations, c'est un lieu très riche. C'est un lieu où les éléments, si on s'en approche, sont vivants et bien là, et bien distincts les uns des autres. C'est aussi le lieu du surgissement. Le bruit de fond, nous on parle, quand on fait du son, de rapport signal sur bruit, hein, c'est bien pour définir ce qu'est le signal sur le sédiment. Hein, et bien là, on a le sédiment, et du sédiment sort les sons, sortent les éléments différenciés, sortent finalement ce qui va faire sens. Donc toute cette partie se situe à cet endroit, avec encore la voix de Lusbert, pour un dernier texte qu'il a laissé avant de mourir à sa femme et à Koeken. Donc vous allez voir comment c'est construit. On est dans différents niveaux, là encore, d'énergie, des niveaux de densité, de matérialité. On est avec une construction qui est liée à l'image, qui est liée au montage, avec des coupures. La coupure est très active. Et puis on est dans un subjectif qui est pris en main par Koeken lui-même, qui, en filmant, fait les pas de celui qui pourrait être là dans cette pièce et qui irait jusqu'au lit ou jusqu'au bureau. Donc il nous fait traverser l'espace plusieurs fois. Puis ensuite, à la fin, on se trouvera avec ce même espace, cette fois habité par ses petits-enfants, la famille qui grouille dans cet espace et qui retrouve de la vie, qui est réactivé de manière très forte. Et tout ça, c'est par le sonore finalement que ça tient, c'est à travers le sonore que ces images sont portées. Alors, plus que ça, Koeken essaye de reprendre main sur la peinture, et dans ce plan magnifique où il filme sa main frottant, touchant à la fois la palette d'abord, puis les tableaux un à un, glissant sur l'image pour comme si il fallait augmenter le contact, reprendre contact, reprendre la main, voilà, après la mort, après la disparition. On va regarder tout de suite ce dernier extrait en espérant qu'il ne s'arrête pas, parce que c'est des flux, hein, en même temps, il faut les voir d'un coup, d'un souffle. Alors il a recoupé le premier film pour le mettre dans l'ensemble, parce qu'il pensait qu'il y avait quelques longueurs. Mais voilà, l'ensemble se constitue comme ça, de ces trois éléments. Voilà, ce qui est beau, enfin, par rapport à la séance précédente, hein, là on est complètement à l'opposé, on n'est plus dans l'évacuation. Hein, chez Tati, on était dans... en ce qui concerne la nouvelle ville, dans un lieu mis au silence, avec aucun sédiment, avec rien, une espèce de, même pas un bruit de fond, même pas une petite porteuse, un petit fond d'air, rien. Là au contraire, on est dans la matière permanente, et alors ça va, c'est très encourageant, parce que la dernière fois je vous disais, ben, finalement le continuum sonore que nous donne le micro est en excès tout le temps de production d'événements qui ne nous intéressent pas. Hein. C'est ça qu'on s'était dit, c'est que ce que prend le micro ne représente pas notre écoute, et notre écoute, c'est sans arrêt scanner l'espace qui nous entoure, et prélever des éléments et ne pas être dans cette continuité et dans une considération absolue de tout ce qui nous arrive. Hein. Le micro nous donne trop d'éléments. Là, on a ce sonore microphonique. Hein. On a ce continuum. Il est là et il est là, mais il est là, comment dire, non pas comme un sédiment qui se situerait en dessous des événements qui feraient sens, mais c'est lui-même qui fait sens. C'est la densité, la matérialité, l'épaisseur, la couleur sonore, parce que c'est ça qui est intéressant dans ces espaces de bruit de fond, c'est que à la fois il détermine des volumes, il détermine des espaces, il détermine des espaces sociaux, il détermine des espaces vivants, et il raconte en soi, non pas par un discours qui se situerait sur eux, une succession d'événements qui nous particuliers, remarquables, singuliers, qui nous arriveraient, mais au contraire dans leur état, voilà, de non-détermination, de non-désignation, de de non-sédiments finalement. Ils sont la matière sonore en soi, la matière comme on a une pâte colorée dans la peinture. Hein, on a là une épaisseur, on a une densité, on a une couleur sonore. On parle de couleur sonore, nous autres, et là on est vraiment là-dedans. Et on a, alors là, des flux qui sont assez lâches, hein, c'est les enfants ou les gens qui se déplacent dans cet espace, mais à la fin, ils commencent à les activer. Vous avez vu comment il enchaîne les chutes des tableaux et les déplacements des tableaux, et où là, on a quelque chose qui se constitue comme une rythmique. Et c'est ça qu'on aura dans Temps Travail, qui est un film construit à partir du son des images. Donc il prend strictement le son qui appartient à chaque séquence d'images qu'il nous présente. C'est des séquences très courtes, c'est des plans qui font quelques secondes, des fois à peine une seconde, et ensuite il commence à matcher ces sons avec d'autres images, c'est-à-dire que on a bien les sons des images qui nous sont présentées, mais elles ne sont pas forcément placées au bon endroit. Et peu à peu, à la fin, elles persistent. Et les images continuent de s'alterner comme ça. Et ce sédiment persiste et devient une espèce de porteuse stable, comme ça, qui tient l'ensemble. Voilà, ce qu'on aimait chez Jacques Tati, c'était sa liberté de placer des sons sur les images et de choisir de désigner que quelques éléments de l'image et d'activer l'image par les sons, hein, placés à certains endroits. Là, ce que l'on aime, bien sûr, c'est cette liberté de reprendre en main la totalité et surtout de ne pas travailler avec le synchronisme. C'est ce qui nous permet d'entendre. C'est parce qu'il n'y a pas de synchro que nous pouvons écouter. Parce qu'il n'y a pas d'effet de fusion. Et lorsqu'il y a l'effet de fusion entre le son et l'image, il y a un événement et il n'y a plus de son et d'image, il y a l'événement. D'où l'image, évidemment, tire son épingle avant le son, quoi. C'est-à-dire, elle l'emporte tout le temps. Mais le son disparaît derrière l'événement. Le synchronisme annule la distinction des composantes. Là, le fait qu'aucun élément n'est synchrone, enfin, on a juste l'eau forte, hein, dans le premier film, qui est synchrone, mais qu'on ne comprend pas, c'est l'ébullition de l'acide, hein, sur la plaque du graveur. Mais sinon, voilà, on est rarement... C'est quelques pas aussi, hein, qu'on a eu à la fin, vers le lit du cinéaste, et puis cette interview à la toute fin, espèce de retour. Alors, on peut le lire de plusieurs façons, mais à la fois c'est une façon de céder au spectateur et de faire retour sur l'hommage, hein, sur la parole, sur les formes. On a là, et en même temps, une autre façon d'approcher la sensibilité, enfin, sur la proximité, l'intimité, etc. Donc, Ken a une très grande confiance dans le son. C'est ça qui est remarquable, finalement, pour ça. Ça nous intéresse, nous, dans ce cycle, de vous montrer des cinéastes qui ont confiance, c'est-à-dire qui prennent des risques, qui y croient, qui pensent qu'avec le son, ils peuvent tenir les images et plus que ça, les nourrir et plus que ça, nous faire vivre quelque chose qui passe par un autre régime que celui de la parole, du discours. Ce sont trois portraits de la même personne et ce sont trois approches différentes du portrait. Ça, c'est très, très intéressant de voir comment on se pose toujours la question. Enfin, moi, avec les élèves, quand on leur demande de faire un portrait, par où ils passent. Et là, on a, voilà, manifestement trois portraits qui n'ont rien à voir et qui nous disent pourtant tous la même chose. Et le chaos est toujours exclu. Hein. Nous, les bruits de fond, tout ça, on essaye de gommer tout le temps. Tout le monde essaye de gommer. Pour le disque, c'est pareil. On essaye d'exclure le bruit de fond. Or, pourtant, c'est la porteuse. C'est ce à partir de quoi... En fait, c'est la réponse, le bruit de fond. Quand les musiciens... ça, c'est un exemple qui parle beaucoup. Les musiciens qui jouent des instruments bruyants, les trompettistes, les trombonistes, les saxophonistes, ils vont jouer sous les ponts. Hein, on les rencontre de temps en temps dans Paris, sous les ponts. Et s'ils vont jouer dans ces lieux, c'est parce qu'il y a du retour. C'est parce que le son leur revient. Et c'est ce bruit de fond, c'est ce chaos, c'est cette queue de son qui leur permet de continuer de jouer. C'est parce que le son fait retour, répond hein, finalement, que ce chaos répond que la parole peut exister. C'est parce qu'il y a la réponse des espaces, que les espaces sont remplis, sont mis en charge, et qu'on a accès à cette charge, que la parole peut renaître. Ça, c'est un principe moteur. Si vous êtes dans une chambre qu'on appelle anéchoïque, c'est-à-dire sans écho, hein, c'est les chambres sourdes, les chambres de mesure, on ne peut plus produire. Si vous mettez un musicien pour l'enregistrer, parce que quand on fait des mesures, des analyses d'instruments pour travailler sur le timbre, on les place dans ces lieux-là, ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils n'ont pas de retour. C'est dire à quel point ce retour qui est à peine perceptible d'habitude, enfin quand on joue dans un espace, on n'en tient pas compte. On pense que ça n'est que l'élément émetteur qui est important. Or, pas du tout. C'est bien évidemment cette dualité entre l'émission et le retour. Et là, il nous fait apparaître le retour. Le retour de quoi ? Ben de tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a disparu, tout ce qui est en train de s'effacer. Voilà, cet effacement permanent. Mais c'est un lieu moteur. C'est la caverne, hein, c'est la caverne. C'est-à-dire, si ces lieux, enfin si la caverne ou l'église sont des lieux, les lieux que l'on construit pour approcher ce qui dépasse l'humain, c'est-à-dire l'endroit où la parole se prolonge. Hein, c'est ça l'idée, c'est que dans ces lieux, dans la caverne ou dans l'église, bah, la voix continue d'exister, c'est-à-dire qu'elle vit après son arrêt. La réverbération est le lieu, hein, voilà, c'est une autre manifestation du chaos, c'est le lieu où l'espace permet au corps de continuer d'exister hors de lui. Ça, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point cet élément est déterminant dans la mise en forme sonore. Par exemple, dans l'histoire de l'enregistrement, si on écoute les enregistrements qui ont été faits dans les années 50, la réverbération était inexistante. Si on écoute les enregistrements qui étaient faits dans les années 30, 40 de musique classique, la réverbération n'existait peu. Elle était contingente du lieu où les gens enregistraient, mais le plus souvent dans les studios. Et il y avait très peu de temps de réverbération. Les taux étaient très bas. Et maintenant, et bien évidemment, au contraire, on est dans des flux de réverbération très très importants, au contraire. C'est par cela qu'on fait tenir la musique dans un espace qui, évidemment, la prolonge et l'emmène bien au-delà enfin de ce qu'elle est capable de faire. Il y a eu une inflation de réverbération dans les années 80. Si vous écoutez les enregistrements de Boulez et du domaine musical en 50, c'est sec, ça tombe, la musique tombe. Et si vous écoutez l'intercontemporain maintenant sur les mêmes œuvres, la réverb est très très longue et elle tient complètement l'œuvre. Donc il y a là quelque chose qui est finalement un principe de vie dans ce chaos, dans ce bruit de fond. Hein, le Veda, les religions de l'Inde renvoient au vacarme, au bruit de fond, au vacarme annonciateur. L'homme sort de la terre sort du chaos, mais du chaos sonore. Hein, Sabbapata Brahmani créa la terre de son souffle et l'homme d'un vent de son fondement, d'un paix. Donc c'est dire à quel point on est dans le chaos à l'origine. Et pourtant, toute la question de la qualité, ce qui est appelé la qualité dans le son, c'est justement l'évacuation du bruit de fond. On a, pendant de nombreuses années, travaillé à mettre au point les réducteurs de bruit, puis le numérique, etc., pour pas qu'il y ait d'effet de souffle, pas d'effet de coquille, pas d'effet de résiduel, etc. Pour peu à peu se rendre compte, quand on faisait l'analyse par exemple du timbre du violon, qu'il y avait un pourcentage au-delà de 50% de bruit dans le son de l'instrument, du pur chaos. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on reconstruit avec, quoi. On joue, on le met en jeu. On n'est pas dans ce qui gêne le signal. On le prend comme le signal. Peut-être quelques questions. C'est dommage qu'on ait eu le film 2 coupé parce que c'est un beau. Oui.
C'est plutôt mon avis sur le deuxième film. Et ça veut dire qu'on a parlé de la cruauté de la vie que ce peintre poète l'a parlé et il a décrit et, mais j'ai remarqué que c'est extrêmement lié à la politique et que c'était vécu très tôt dans son enfance quand il a vu ce genre de révolte sociale et après. Et on voit bien comment il alliait des images des animaux avec des images humaines qui sont épuisées par le travail. Et en même temps, on voit l'épuisement de l'animal et sa mort après. Et c'était extrêmement lié à la politique, son travail. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer. Ça veut dire que ce n'était pas une cruauté inhérente à la vie, mais c'était une cruauté d'exploitation de l'homme à l'homme. Et voilà, c'est ce que ça veut dire.
Oui, merci, merci. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il s'agit de ça. On a les camps, on a... les êtres qui sont les laissés pour compte, enfin, et on a le bagne, enfin, les casseurs de cailloux, voilà. Et puis le camp avec Benvenodos, voilà. Bien sûr, bien sûr. Il a été, Lusbert a été pris par la Gestapo pendant la guerre, enfin. Donc il a un souvenir profond de tout ça. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas, on peut le supposer, mais je ne sais pas. Enfin, il y a quelques textes, mais je ne sais pas, Oui.
Bonsoir. J'aurais peut-être aimé vous entendre rebondir. C'est le troisième volet. Quand sa femme évoque les carnets, qu'elle parle, il n'y a plus, peut-être je n'ai pas tout observé, mais il n'y a plus que le son de la voix. Et j'aurais aimé vous faire rebondir sur, comme vous parlez, du son, parce que quand on ressent le moment, on est à l'écoute, c'est le moment même, il y a eu, je crois, des courts moments, moments de séquence, peut-être il n'y avait plus de son, mais quand on entend cette voix seulement, j'ai eu l'impression d'un grand silence. Et j'aurais peut-être, là c'est pour que vous parliez, hein, c'est pas... Vous avez sans doute quelque chose à dire à ce moment, non? Pardon.
Non, j'ai peu de choses à dire là-dessus. En fait, c'est sûr que c'est le seul retour sur la parole, c'est le seul retour sur la voix, et c'est bien sûr une voix affectée, c'est une voix au plus haut niveau de la sensibilité par la mémoire. Mais... Je ne sais que penser de ça. Je ne sais pas ce qu'il a voulu mettre à cet endroit. Mais Keuken est tout le temps comme ça, dans des rebondissements inattendus. Il construit un objet et puis très vite, il l'emmène ailleurs. Et il rompt avec des choses qu'on n'attend pas. C'est toujours l'inattendu chez lui. Il y a toujours comme ça des formes qui se mêlent. Dans une forme, il en introduit une autre. La question de la forme, pour lui, est même essentielle. Hein, dans L'enfant aveugle, Hermann Slob, il parle là, à la fin, à propos de cet enfant, en disant que c'est une forme. Et tout le temps, cette question le tient. Je pense que il a toujours voulu maintenir plusieurs systèmes entre eux. Il a toujours voulu maintenir des constructions complexes, des constructions qui ne sont pas dans une policée, qui ne sont pas dans une forme constante. Il travaille tout le temps sur la rupture. Je pense que c'est revenir à quelque chose qui est de l'ordre du narratif, d'un autre cinéma, du documentaire, enfin bon. Je crois qu'il se situe... très loin dans la question du documentaire. Je crois que c'est un cinéaste qui est, comme il dit, que pour lui, finalement, la question ne se pose pas en tant que fiction ou documentaire, mais sur cette liberté de la forme. Mais on parlera de la voix sur une autre séance, parce que on a une séance qui est prévue pour ça, et on approchera cette question.
Bonsoir. Quel est le titre du second film? Parce que je n'ai pas cru apercevoir un titre.
Alors, je vais vous dire ça. Un film pour Lusbert, il s'appelle. Un film pour Lusbert. Le premier s'appelle Lusbert, poète et peintre. Le deuxième film
Paul Husbert.
Bon, merci.
Voilà, il est mort à 70 ans. Il est né en 24, mort en 94.
Bonsoir. Voilà, ce serait plutôt une question peut-être technique. Je voudrais savoir si vous avez déjà vu des films, les deux films d'Albert Serra. C'est Honneur à la chevalerie et puis Le chant des oiseaux. On a un traitement du son avec le numérique. En fait, je voulais savoir si tout ça est reconstruit, parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de presque une performance, un son direct, où on a ce souffle du vent, etc. Et puis, avec parfois la voix très éloignée, donc on a un son lointain, on a une perspective. Je voulais savoir si c'était vraiment reconstruit, parce que là, vous parlez d'une réelle reconstruction, d'une réelle reconstruction du son, et je voulais savoir comment c'était fait techniquement, par exemple, pour ces films-là. Est-ce que vous pouvez, même si ça pas vraiment en rapport avec...
Oui, non, j'ai pas vu, malheureusement, ces films. Il faut que j'aille les voir d'urgence, bien sûr.
Est-ce que c'est sur plusieurs pistes sonores? Est-ce que c'est vraiment reconstruit quand même?
Oui. Non, j'ai pas vu ces films, donc je pourrais rien vous en dire. Ce que j'ai vu, par contre, c'est Le Lac, le film de Grand Rieu, qui va sortir là bientôt, et qui lui aussi est totalement reconstruit. Mais faut dire que le cinéma est énormément reconstruit. Même les films les plus commerciaux et les plus standards sont totalement reconstruits. On a effectivement dans un certain cinéma beaucoup de son direct. On essaye d'en faire le plus possible. L'idée tout le temps, c'est de sauver tout ce qu'on peut dans le direct. Mais je ne sais pas si c'est la solution du cinéma. Je crois que le cinéma doit inventer son sonore et doit le fabriquer de toutes pièces. Peut-être si on a des comédiens qui jouent et que effectivement la question est de saisir le sensible de l'interprétation. Garrel, bien sûr, travaille comme ça. Il fait une prise ou deux prises, hein. Même si c'est une star qui est là, c'est le contrat. Là, c'est du son direct et on ne pourra pas refaire. Il n'y aura pas de post-synchronisation, jamais, aucune. Voilà, c'est ça. Il y a une prise, point, ou deux prises, ou trois prises éventuellement, mais c'est rare. Non, rien rajouté chez Garrel, absolument rien. Non, ça c'est des décisions, voilà, c'est des décisions de forme. Mais le cinéma de Kekkonen nous montre l'inverse. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, travailler le sonore, c'est construire un objet. Moi, je pense que c'est pas une partition. Je pense que ça relève d'autre chose que du musical. Je crois que la musique, c'est une chose et que le sonore en est une autre. Et on a là quelque chose qui se constitue en regard des images que l'on construit avec l'image. Le montage est ce lieu, justement, merveilleux où on prend le temps de cet ajustement, d'essayer de comprendre... jusqu'où on a besoin du son et quel son on a besoin. Et je pense que c'est un lieu de questionnement. Je pense que les cinéastes... il y a trop peu, j'ai l'impression, de cinéastes qui se questionnent à ce moment-là, là-dessus en tout cas. Parce que le cinéma est surtout un cinéma de dialogue, de narration. Là, on est justement dans une autre matérialité, dans une autre approche. Donc là, on peut commencer à travailler avec la matière. Mais il y a des gens qui font du cinéma narratif, et dans lequel il y a des dialogues et qui ont un grand souci du son. Ça va être le cas du film que l'on va voir à la séance prochaine, qui est Stalker, et où là, on a un très gros travail sonore, même s'il est... justement dans une certaine économie, hein, dans le rare, dans peu d'éléments, dans un choix extrême, et puis dans une palette, enfin un vocabulaire sonore extrêmement serré, quoi, extrêmement choisi. Là, au contraire, on est dans un vocabulaire qui ne se constitue même pas. Il y a quelques éléments repères. Il y a l'atelier du peintre, hein, qui revient avec la voix de Billie Holiday. Donc c'est peut-être ça qui renvoie le plus à un espace particulier dans ce film. Mais les espaces ne sont jamais habités de leur son. Voilà. Par exemple, avec le bruit de fond, dans le dernier film, il met en charge l'espace de l'atelier qui prend d'un seul coup une autre nature. Il y a une déréalisation. On n'est plus dans l'anecdote du voyage à l'intérieur de l'atelier du peintre. On quitte tout ce qui pourrait être une littéralité. On est au contraire dans... une transfiguration. Les espaces sont bouleversés, l'espace est bouleversé. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est qu'il suffit d'amener un autre son pour que l'espace même, l'architecture, soit bouleversée. Les volumes, la volumétrie des espaces est bouleversée. On ne lit plus du tout. C'est ça qui est intéressant. On ne lit plus les espaces de la même façon. Là, ils sont mis en charge, une espèce de... surpression.
Oui, je vais donner mon avis par rapport à cette question-là, parce que j'ai vu le film de Honor et de la cavalerie, mais je pense que l'effet sonore de ce film-là, c'est complètement différent de ce qu'on a vu aujourd'hui, puisque dans ce film dont on parle, Honoré de la cavalerie, il suit d'une façon naturelle les images. Et c'est la nature, parce qu'on voit beaucoup de la nature, donc on écoute beaucoup de bruits de la nature d'une façon naturelle, on peut dire, avec la musique. Mais là, dans ces images-là qu'on a vues aujourd'hui, ce sont des images qui parlent, qui interprètent, que c'est un cri des images. Mais là, c'est complètement différent. Même technique, que c'est après, que c'est une construction de sonorité, et c'est complètement différent par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui.
Merci. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'était reconstruit, parce que moi je suis plutôt dans la performance, donc je voulais savoir si c'était réellement un son direct qui me fait aussi référence à un cinéma direct aussi, et je voulais savoir, en sachant que le cinéma direct, il y a de la construction aussi, hein, c'était quand on voit Jean Rouge, etc., mais c'est ça que je voulais savoir, hein. Je sais absolument que c'est complètement différent, hein. Okay. Mais je voulais quand même que je voulais savoir, quelqu'un, mais c'est ça que je voulais savoir.
Oui, finalement, le cinéma, même le cinéma le plus narratif, celui qui est même dialogué, souvent est reconstitué et personne ne s'en aperçoit, ou quand c'est bien fait. Il y a une énorme cuisine, hein, de travail cinématographique, et c'est un très très long et très patient travail de réagencement pour désigner les choses, bien sûr.
Parce que dans ces films-là, on a, parce que là, je réfléchis, c'est vrai que dans les films d'Albert Serra, que j'aime beaucoup, hein, effectivement que le son est vraiment distinct. Et si on filme effectivement comme ça en son direct, il y a justement cette indiscernibilité, il y a ce que, comme vous appelez, le chaos. Effectivement, là j'étais en train de réfléchir. C'est vrai que je voulais savoir, j'étais curieuse comment ça se faisait. Voilà, c'était tout.
Ouais.
Mais effectivement, oui. Mais lorsqu'on joue avec la performance, par exemple, il y a du direct aussi, donc voilà.
Ouais. On constitue un effet de réel. Mais c'est de l'effet de réel, parce que le direct, c'est quel direct, hein? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la séance précédente. Il n'y a pas de son de l'image. Il n'y a pas de correspondance entre le son et l'image, même en son direct. Ce que représente et ce que prend en charge le son n'est pas à l'échelle de l'image. Il n'y a pas de cadre au son. Le son est quelque chose qui nous offre un point d'écoute, qui s'offre comme un point d'écoute qui est un centre. C'est-à-dire, quand je mets mon micro à un endroit, il entend tout ce qui l'entoure. Et cela jusqu'à l'infini, jusqu'au bruit de fond, justement. Et donc, il n'y a pas de cadrage. Donc, ce que l'on prend pour étant le son du cadre, c'est l'œil qui nous en donne la limite. Et c'est l'œil qui détermine qu'il y aurait un hors-champ. Mais au son, il n'y a pas de hors-champ. Ça n'existe pas, le hors-champ. Nous n'avons aucun hors-champ. C'est en passant par l'image que l'on peut commencer à définir un hors-champ. C'est parce que l'on voit le bord-cadre qu'il y a du hors-champ. Mais si on écoute le film uniquement par le son, il n'y a pas de hors-champ.
Oui, je pense aussi qu'il est question dans le film de la figuration. Comment le visuel figure le sonore figure le visuel. Et je trouve que tout au long des trois films, en fait, il y a une évolution sur comment deux possibilités d'évocation du chaos, qu'il soit sonore, visuel, en se rencontrant, produisent en fait une troisième figuration,
ouais,
qui en fait reste toujours impalpable et enchâssée dans la matière. Et je trouvais que c'était ça qui était intéressant, d'où la question de... finalement, comment le son peut moduler le visible,
ouais,
constamment, en fait. Comment le...
Alors, il y a une mise au relatif du visuel par le sonore, oui. J'ai fait un travail avec les étudiants des Beaux-Arts pendant un certain nombre d'années sur ça, sur la question de la plasticité du son. Et en quoi, finalement, quand on change un son synchrone, hein, avec une image, quand on l'échange pour un autre son, la matérialité visuelle se transforme. Il y a là le poids, par exemple, peut être un élément très important, hein, quand on voit un élément tomber et que le son du choc est pas de nature à ce que l'on attendait, d'un seul coup la matière de l'objet, tout ce que l'œil nous donnait et comme certitude de cet élément s'écroule, et il y a là quelque chose qui se produit qui est de l'ordre d'une déréalisation, de l'ordre d'une improbabilité, mais qui existe dans le temps et qui existe dans une progression. Et c'est ça qui est très intéressant. Lorsqu'on commence à faire travailler l'image par le son, quand on commence à ne pas donner à l'image ce qu'elle est supposée nous faire entendre. Et seul le cinéma nous permet de faire ça. Le spectacle vivant ne peut pas le faire. Seul le cinéma est le lieu où l'on peut ancrer dans l'image une matérialité sonore qui ne s'adapte pas à ce que l'on attend et qui l'emmène ailleurs. Alors, bien sûr, le bruitage cinéma, c'est ça fondamentalement, c'est-à-dire c'est faire croire par des éléments sonores qui sont appauvris par rapport à l'élément réel, à la vérité de l'existence de ces objets, de ces éléments. Mais la force justement du bruitage, c'est d'arriver à une espèce d'épure de la matérialité du visible, c'est-à-dire à un allègement de cette matière de l'image. Et on peut aller, bien sûr, bien au-delà. Et on peut travailler le son des images, y compris avec des bruiteurs, mais pas seulement avec des bruiteurs. Je repense à Grand Rieux, parce que je viens de revoir un film précédent. Et il travaille justement la sensation. Hein, il travaille dans des grandes proximités, dans des grandes puissances sonores. Tout est reconstruit, mais tout est reconstruit avec une immense force, une immense violence qu'il vient raccorder sur ces images. Il tourne avec la violence. Par exemple, il a fait un film qu'il a tourné en Bulgarie, et pendant son tournage, pendant le tournage des plans, il parle aux acteurs, donc c'est impossible de faire du son direct. Il hurle, il met de la musique à fond pour que les acteurs, qui ne sont pas des acteurs d'ailleurs, les figurants bougent et se déplacent sous la pression du son. Hein, il tourne même en caméra thermique pour pouvoir faire des images dans le noir, pour les mettre justement dans des conditions de jeu qui ne soient pas celles qui soient en prise avec le visible. Et à partir de ces images, il les recharge avec des sons où là, il met un tel régime d'énergie, de puissance, de proximité que les images n'auraient jamais eu si on avait tourné en direct. Par exemple, dans le lac là, qui va sortir, les arbres, par exemple, qui sont abattus, sont enregistrés avec des micro-contacts dans le bois, et c'est pas enregistré pendant le plan, mais c'est après le plan, c'est-à-dire il refait un plan pour le son, et strictement pour le son, et ensuite il va recaler les éléments sur les images pour que ce qui est donné soit donné avec une possibilité de prise que le tournage ne permet pas normalement. C'est-à-dire que si on veut être proche, on est en micro-cravate, et si on veut être au cadre, on est avec des perches qui sont lointaines. Je veux parler d'un plan général. Or là, il peut, s'il refait pour le son, avoir des positions de micro qui sont relativement proches, mais qui ne sont pas des positions de micro-cravate, hein, et qui vont nous donner une puissance du sonore, qui vont activer les images de manière beaucoup plus importante que si on avait du son direct. Donc c'est un recalage, c'est un réajustement, c'est un choix de quelle densité, quelle épaisseur, quel timbre, puisque on sait que plus on s'approche de la matérialité, de l'objet qui sonne, plus on va lui faire sortir une densité des timbres importante et riche. Hein, on sait qu'en s'éloignant, eh bien, il y a tout un tas de fréquences qui disparaissent. Donc plus on est, plus on s'approche, et plus les sons sont habités, sont denses, sont épais, sont nourrissants, quoi. Donc c'est comme ça qu'il travaille, pour nous donner justement un cinéma qui nous prend à l'endroit de la sensation. Et c'est pas du tout un cinéma de dialogue. Il s'en fout complètement. D'ailleurs, ça parle dans plusieurs langues. Il traduit pas. Il y a à peine des sous-titres. Des fois, il y a un sous-titre ou deux, mais il y a rien, quoi. Tout est dans l'intensité des relations. Et pourtant, il y a du jeu. Il y a du jeu. Le film précédent était sur la prostitution. Et sur le commerce des corps, et c'est d'une violence inouïe, mais par le son, c'est d'une violence inouïe. Alors, il tourne très proche, il tourne très près des corps, mais il refait le son. Et alors, c'est aussi cet ajustement qui est un non-synchronisme, un synchronisme approximatif, un synchronisme recalé, un synchronisme reconstruit, reconstitué, qui fait que finalement il y a peu de choses qui sont réellement On y croit parce que la succession des ajustements à peu près nous pousse à croire que c'est synchrone. Et donc il y a un effet de fusion qui se fait et on oublie le son. Il nourrit l'image et il active l'image. Mais en fait, il est tout le temps faux. Il est tout le temps faux. Si on regarde chaque plan et si on considère le son de chaque plan, ça n'est pas le son réel du plan. Il est autour, enfin, ça bourdonne autour du point de synchro. Il y a un brouillage. Mais un brouillage qui est dans une énergie tenue et construite et calée, en fait. Hein, recalée. C'est sûr qu'on a toujours tendance à croire que c'est du direct et que le son au cinéma le plus vrai, le plus fort serait le son direct. Il y a toute une école d'ailleurs qui engage à cette croyance. Évidemment, enfin moi je suis d'accord avec Philippe Garrel pour faire une seule prise et pour avoir non pas la vérité mais la maladresse. Non pas la vérité mais l'incertitude dans le jeu. Non pas la vérité, mais en tout cas la vérité de cette fragilité-là. Voilà. Ça, c'est intéressant. L'endroit où, finalement, les acteurs ne vont pas tenir la prise totalement. L'endroit où ils vont mettre la gomme à un moment et puis à un autre moment, ils vont perdre du terrain. Et où ça sera un autre qui va reprendre le relais. Où ça sera un geste qui sera d'un seul coup juste par justement ce trouble qui arrive soudain. Dans le jeu. Donc finalement, le direct, il est intéressant à cet endroit, et dans le documentaire comme dans la fiction. Il est à l'endroit de où le sensible transparaît, voilà. Où là, il nous met en contact, enfin, avec les corps à l'endroit du plus fin. Enfin, nous sommes capables d'entendre même sans la distinguer, sans la reconnaître et sans en avoir conscience, nous sommes à même de distinguer le presque rien qui est vraiment l'endroit qui nous touche le plus, qui est justement à cet endroit où on n'est pas sûr, où il y a l'hésitation, où les choses sont fragiles et frêles. C'est là finalement où le sonore travaille le mieux. C'est pas dans les gros paquets et dans l'armada du doublage et de la post-synchro où les corps finalement parlants ne sont plus engagés, parce que faire une post-synchro c'est désactiver l'engagement des corps. C'est en cela que la post-synchro éteint les films. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est justement peut-être ce travail que le son fait dans ce désajustement, enfin, avec l'image, dans cette approximation du recalage. Ça, c'est intéressant. Mais c'est ce que Tati fait tout le temps. On voit, je vous ai montré la dernière fois à quel point, et on pourrait, si vous regardez par exemple Les Vacances de Monsieur Hulot, c'est flagrant, dans ce film, les trois quarts des sons ne sont pas calés. Et je repense à ce propos à un film qui travaille entre le sonore et le musical, puisque là on avait aussi entre le sonore et le musical, mais d'une autre façon, qui est le film animalier Le Territoire des Autres de Vienne, etc. et Fano. Où là, Fano travaille sur justement l'approximation, c'est pas l'approximation, c'est plutôt des contrepoints, c'est des contrepoints du placement des points de synchro. C'est-à-dire qu'il place les points de synchro avant l'événement visuel. Il met les points de synchronisme à l'endroit où finalement le surgissement du son nous prépare au regard, nous prépare à saisir l'événement visuel. Et il cale ses sons en avance sur les événements. Et ça, c'est très intéressant, ce flottement. Hein, tour à tour, on revient au synchronisme, puis on se redécale. Et ce jeu fait qu'on va avoir une double conscience. Il va y avoir de l'écoute consciente. Voilà. Et ce que je vous disais la semaine dernière, le mois dernier, c'était la dernière séance, c'était qu'effectivement, il faut se pincer tout le temps pour avoir conscience de l'écoute, hein, pour se souvenir, pour ne pas rentrer dans la fusion cinématographique et rentrer dans l'histoire. Si on veut entendre un film, il faut soit écouter la bande-son séparément, soit sans cesse se dire « ne rentre pas dans le film, écoute ». Là, dès qu'on est hors synchronisme, on a la vision et l'ouïe. On a les deux. Et la sommation des deux, comme vous disiez si bien, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se produit, qui est l'ordre d'un troisième élément qui se joue des deux, quoi, qui produit quelque chose d'autre. Et là, chez Kekken, c'est manifeste, enfin, c'est d'une puissance incroyable. Et ce qui fait que finalement, ce film, on peut le revoir une infinité de fois, il est toujours aussi actif. On ne se lasse jamais, on ne l'a jamais intégré, parce que nous travaillons à la lecture, à reconstruire, à refabriquer des liens. Nous ne cessons d'organiser les liens entre le visuel et le sonore. Et je crois que, on fera une séance sur cette question du synchronisme, parce que c'est vraiment une question centrale. Pour moi, le cinéma, en croyant fondamentalement, enfin, une espèce de, comme ça, ontologie du synchronisme. Le synchronisme serait constitutif fondamentalement du cinéma. Non, c'est quelque chose qui a été construit et qu'on a mis 30 ans à construire et maintenant qu'on essaye de tenir à toute force. Croyant que c'est la condition absolue pour faire du cinéma. C'est une erreur fondamentale. Il faut se rire du synchronisme. Et je crois que c'est les cinéastes qui se rient le plus du synchronisme qui nous font passer le plus fortement leurs images et qui font que le spectateur accroche les sons aux images. C'est le spectateur qui va faire les liens. Et la question fondamentale, évidemment, est que plus on participe au film, plus on construit du lien entre le sonore et le visuel, plus on nourrit le film, plus on le fabrique nous-mêmes, et plus c'est notre film. Or, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a des cinéastes qui nous font croire qu'ils font du cinéma synchrone et qui font du cinéma non synchrone, mais ceux-là sont les plus habiles. Absolument. Et tout le monde l'oublie. Et dès qu'il y en a un qui commence à réemployer ça, on renvoie à Eisenstein, évidemment, très vite. Mais oui, bien sûr, absolument. C'est-à-dire que l'idée de comment dire, de sonoriser les images, de faire dire aux images ce qu'elles seraient censées dire, c'est déjà se mettre sous le régime du regard, quoi. Et c'est abandonner le son.
Je pense que ce qui s'est passé en Union soviétique à l'époque, c'est que Einstein avait écrit la théorie du contrepoint orchestral, dans laquelle il devait justement dissocier un peu l'image et le son pour que le cinéma puisse naître quelque part dans la tête du spectateur. Et c'est le réalisme socialiste qui lui demande pas du tout, pas question de ça, il faut que les gens croient à ce qu'ils voient. Et donc, c'était une question politique.
Tout à fait. Tout à fait, absolument, tout à fait. C'est la loi. Il faut ramener la loi. Voilà. Le synchronisme, c'est la loi du cinéma. là, on a vu un hors-la-loi.
Ce qui est intéressant dans ce film, par exemple, le deuxième film m'a beaucoup parlé à moi aussi, il m'a parlé beaucoup de vie, parce que là, je vois, par exemple, que Kogan, il prend donc des Coltrane, et puis il fait venir une espèce de musique tropicale colombienne, de la côte caraïbe colombienne, il mélange tout ça, et puis il joue avec le cinéma d'animation. Et après, il repart sur il fait des plans sur des fruits très, très colorés, ça parle d'Amsterdam, qui est même aussi une espèce de ville très universelle quelque part, et avec ça, il s'arrange pour parler de la vie, de la joie. C'est un hymne à la joie, alors que les autres sont plus à la disparition, à la mort, à l'absence. Mais il passe, il expérimente beaucoup de choses d'une manière incroyable. C'est triptyque, elle est très bien choisie parce qu'il y a une richesse complète de toutes les gammes de possibilités sonores d'un cinéaste.
On aura l'occasion de poser des questions à Daniel encore dans 3 séances, puisqu'il a la possibilité de développer sa pensée encore sur 3 séances jusqu'au mois de juin. Donc merci beaucoup, Daniel.
Merci.